est blanche.
40 nuances de Sista. Les Sista du Next 40, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. En octobre dernier, mon invité et ses associés ont remporté le prix Startup de l'année lors du Grand Prix EY. Il s'agit de Yun Luo, cofondatrice de Rosy Solar. Bonjour Yun.
Bonjour Solène.
Et bienvenue à notre micro.
Merci.
Alors Yun, avant de commencer cette émission, je t'ai demandé de choisir une musique qui illustre selon toi ton aventure Rosy Solar. Et tu as choisi les suites de Bach. Pourquoi ce choix pour illustrer ton aventure Rosy Solar?
Cette version est jouée par Yo-Yo Ma, je pense.
Oui.
Yo-Yo Ma, c'est un musicien que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses en commun.
Oui.
Vous avez bien remarqué, je suis chinoise. J'ai vécu une bonne partie de ma vie en Europe, la plupart. Et donc, chez moi, il y a un mélange de cultures. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette pièce jouée par Yo-Yo Ma. Pour lui, c'est aussi une vie qui a vécu à Taïwan, à Paris, aux États-Unis. C'est un mélange de cultures.
Et ce mélange de cultures, on le retrouve aussi chez Rosy Solar?
Oui. Oui, donc dans les collègues, parce que Rosy, on fait le recyclage des modules solaires en fin de vie, on fait le recyclage des matières premières qui sont perdues pendant la production de photovoltaïque. Donc c'est une activité qui a ampleur européenne, même dans le monde.
Ouais.
Donc aujourd'hui, l'équipe est constituée principalement comme une start-up par des collègues français, mais on commence à avoir des collègues européens comme des Allemands, Suisses, Espagnols. On a même une Taïwanaise dans l'équipe.
Alors, la start-up, tu viens de le dire, a développé un procédé innovant qui permet le recyclage et la valorisation du silicium et des métaux précieux présents dans les panneaux solaires. En fait, l'idée, c'est de récupérer une partie de ce silicium, c'est ça?
Exactement.
Ouais.
Exactement. Je pense qu'on est tous d'accord, énergie solaire devient énergie du futur, qui va jouer un rôle vraiment déterminant pour notre planète, pour notre besoin d'énergie. Donc la génération d'énergie implique très peu de CO2, mais la production de ces panneaux solaires implique énormément de CO2 et énergie. Donc tout ça parce qu'on a besoin des matières premières très très pures, comme ce que vous avez mentionné, silicium et des métaux, comme de l'argent. Et malheureusement, aujourd'hui, toutes ces matières dans les modules en fin de vie, gentiment, on aura beaucoup, beaucoup de modules en fin de vie qui sont tous perdus. Donc, le recyclage de ces modules, il y a la collecte, un peu de recyclage par broyage,
oui.
Mais principalement, toutes ces matières critiques, chères, qui sont mises en décharge. Donc, là, Rosy a inventé ou a développé d'abord des innovations pour revaloriser ces matières perdues de très haute valeur. Et après, on a aussi développé des technologies pour les réintégrer dans les différentes industries. Et après, on est même plus avancé pour développer des procédés industriels, à l'échelle industrielle. C'est toujours un défi vraiment très important de A à Z pour traiter des modules de A à Z, donc pour les décadrages, pour délamination, extraction des matières premières, les séparations et réintégrées dans les différentes industries.
On va revenir sur la partie recyclage que vous traitez principalement chez Rosy Solar. Si on revient sur la filière du photovoltaïque, beaucoup de panneaux sont faits en Chine.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une place, selon toi, pour une filière qui soit hors de Chine ?
Absolument, absolument. Donc, si on veut avoir une filière photovoltaïque, c'est pas une industrie, c'est un écosystème.
D'accord.
Des industries.
Ouais.
Au moins, il faut avoir trois lignes qui sont complètes. Donc, la première ligne, c'est les équipementiers. Il faut avoir des équipementiers locaux qui produisent des équipements pour produire les panneaux solaires.
Aujourd'hui, on en a en France ?
En France, un peu limité.
D'accord.
Principalement en Europe, ce sont des entreprises, des collègues allemands.
Oui.
On a encore un peu des équipementiers qui arrivent à produire des équipements qui sont de haute qualité pour produire des panneaux.
D'accord. Et ça s'explique comment, par exemple, que chez les Allemands, on a plus de choses que chez nous, par exemple, en France ?
Je pense que c'est un peu dans les... voilà, donc dans la stratégie développement de pays. Donc,
ouais.
On a quand même vécu en France.
C'était la même chose sur les éoliennes, non?
Je ne peux pas dire non. mais ça recommence. On a,
ouais.
On a vécu quand même une période d'industrialisation, je vais y arriver.
Ouais.
Et maintenant, on comprend que pour avoir un pays pour développement plus soutenable, il faut vraiment industrialiser le pays. Ou bien on dit industrialisation d'un niveau plus haut, plus
D'accord.
haut qu'aujourd'hui. Donc je reviens sur mes trois lignes.
Oui.
La première ligne, c'est les équipementiers locaux. La deuxième ligne, c'est des productions, des matières premières aussi locales. Parce que quand on regarde dans un panneau solaire, on a besoin de verre de très très haute qualité, du silicium très très pur, de l'argent aussi très spécial qui sort des électrons depuis les cellules. Et puis des polymères pour l'emballage. Donc là, ça, c'est des producteurs des matières premières. On a quelques-uns, mais pas vraiment complets et pas vraiment avoir un avantage de coût avantageux.
Mm.
Et la troisième partie, c'est les opérations. Donc des entreprises qui arrivent à produire des panneaux solaires avec les équipements, avec des matières premières. Quand on parle aujourd'hui gigawatt,
ouais.
Il est très facile à écrire sur papier, c'est 9-0. Mais il faut vraiment comprendre, il faut quand même admettre le fait qu'en Europe, on n'a jamais eu même un giga de production. Donc aujourd'hui, il est très, vraiment, ça motive, voilà, plusieurs projets gigafactory qui sont en train d'être montés.
Mm-hmm.
Il faut vraiment, vraiment être conscient, cette production, cette organisation de production sur une ligne de production très, très longue et importante, vraiment cruciale pour avoir des panneaux produits localement. Donc après, toutes ces trois lignes sont montées, on a les off-takers. Ce sont des panneaux, ce sont des utilisateurs qui... On doit aussi accepter le fait que ces utilisateurs, les grandes centrales, ils comparent les coûts.
Oui.
Bien sûr, ils achètent des panneaux moins chers pour générer plus de profits. Donc, comment on peut digérer ces utilisateurs à utiliser les panneaux qui sont produits en Europe, qui auront certainement un prix un peu plus élevé que les panneaux chinois. Là, c'est un enjeu. On doit vraiment investir pour compléter tout ce scénario.
C'est même un enjeu de politique européenne, en fait.
Absolument, absolument. Donc, il y a beaucoup de discussions. Rosy est aussi très engagée dans toutes ces discussions.
Oui.
Donc, aujourd'hui, quand on regarde tout le landscape photovoltaïque en Europe, on a deux opportunités. La première opportunité, c'est sur le recyclage. C'est-à-dire,
oui.
tous ces panneaux installés, c'est une mine riche. Toutes les matières premières très pures.
La durée de vie des panneaux, c'est à peu près combien de temps ?
Ça dépend quand le panneau a été produit.
D'accord.
Donc, quand c'était produit il y a 15 ans, l'efficacité, c'était à peu près 16%, 17%. Il perd à peu près 1% en relative chaque année.
D'accord.
Donc, aujourd'hui, il faut les changer.
OK.
Donc, déjà après 15 ans. Et aujourd'hui, les panneaux, normalement, on garantit 25 ans, 30 ans.
D'accord.
Donc ça fait une courbe assez, je dirais, smooth. Donc,
oui.
Pour la quantité de panneaux solaires en fin de vie.
D'accord.
Donc aujourd'hui, on peut dire c'est que c'est vraiment, il y a un tsunami de panneaux qui va venir.
Ouais. Et donc, tu parlais du recyclage.
Ouais, deux opportunités. Une opportunité, c'est le recyclage. Ouais. On recycle des matières premières locales. Il y a deux grands avantages. C'est le coût.
Ouais.
Déjà, on ne va pas importer, on ne va pas produire à partir des matières de ressources naturelles. Le deuxième avantage, c'est l'empreinte CO2 liée à ces matières recyclées. C'est beaucoup plus faible que les matières premières. Donc, c'est aussi une mine très riche. Donc là, on peut déjà profiter. La deuxième opportunité, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, grands groupes, qui sont conscients qu'on doit s'engager tout ensemble dans cet écosystème. Donc, il y a des entreprises qui sont engagées pour dire, voilà, maintenant, j'investis pour avoir une chaîne de production intégrée. Pour une chaîne de production comme photovoltaïque, qui est très, très long, quand on a des intégrations qui permettent de réduire le coût et aussi avoir une stabilité dans la qualité de modules produits. Donc là, je vois, c'est comme deux opportunités pour nous aujourd'hui, il faut les saisir.
Alors, avant, il se passait quoi? Donc, par exemple, un panneau allait être échangé parce qu'il est moins efficace. Il devenait quoi, ce panneau?
Si on veut le recycler...
Non, avant... Enfin, il y avait déjà cette dimension de recyclage avant ou pas? Non.
Tu veux dire avant...
Avant que vous interveniez, notamment vous, sur la partie recyclage.
Aujourd'hui, donc, en Europe, il y a toujours cette directive. Donc, c'est Extended Producer Responsibility.
Ouais.
C'est-à-dire tous les importeurs, tous les producteurs, ils sont obligés de payer une écotaxe. Et après, il y a des écosystèmes. Là, on a un écosystème, éco-organisme français qui s'appelle SOREN, qui est vraiment leader mondial pour faire la collecte.
D'accord.
Donc, il reçoit cette écotaxe. Avec cet argent-là, ils font la collecte et puis ils l'envoient ces panneaux aux recycleurs. Donc, Soren fait l'appel d'offres tous les 4-5 ans pour des entreprises à recycler ces panneaux. Donc, le procédé de recyclage jusqu'à aujourd'hui, c'est principalement basé sur le broyage.
D'accord.
Donc, tous les panneaux sont broyés, une petite partie de verre est recyclée, le cadre aluminium est recyclé, le boîtier jonction derrière, il y a un petit boîtier électronique recyclé. Tout le reste, c'est principalement mis en décharge.
D'accord. Et donc là, c'est ça
que
vous avez décidé.
C'est dommage parce que dans cette partie mise en décharge, il y a des matières premières critiques très chères, silicium, argent. Il faut savoir que l'argent, le poids, c'est moins que 0,1% d'un panneau, mais la valeur économique, c'est 50%.
Ah oui.
Oui.
Et est-ce que vous êtes les seuls à vous être penchés sur ce sujet-là?
Il y a plusieurs.
Ouais.
À ma connaissance, il n'y a pas encore vraiment de grands groupes, grande industrie. Il y a pas mal qui regardent, comme Veolia, si je peux me permettre. Il y a plusieurs PME qui regardent, surtout en Allemagne, des entreprises qui regardent comment recycler. Oui, c'est un marché, on dit « emerging market ».
Et toi et tes associés, comment vous en êtes venus à ce projet?
Déjà, je voulais ajouter un mot, c'est qu'aujourd'hui, Rosie est sur la position leader.
Ouais.
Avec, j'estime, un an, deux ans.
D'avance.
D'avance par rapport aux autres. Parce qu'on a développé les procédés vraiment de A à Z sur toutes les matières. On est très avancé sur industrialisation. Donc, on est en train de démarrer. C'est déjà construit notre site. On est en train de démarrer le premier site vraiment industriel qui est dédié au recyclage de haute valeur de ces matières premières à Lamure, près de Grenoble. On aura bientôt notre inauguration. C'est aussi le premier site du monde. Comment Rosie est arrivée là-dessus? Donc, Rosie a été fondée en 2017 par trois cofondateurs, dont tous les trois sont toujours. Nous avons passé toute notre vie professionnelle soit en matière première silicium, soit en photovoltaïque.
D'accord.
Donc, c'était cette perte. C'est vraiment... ça tient notre cœur à recycler. C'était un but vraiment pour toute notre vie, si je peux dire.
Une mission commune que vous vous êtes donnée.
C'est ça. Donc, c'est très soutenu par la SAT, hein, la SAT Lynxium à Grenoble.
Ouais.
Donc, ils nous ont aidés à restructurer donc notre vision sur le marché, la feuille de route de développement. Comme ça, on a démarré fin 2017.
Et avant, tu étais dans un poste salarié. Tu faisais quoi avant de lancer Rosie?
J'étais maman.
Ça, c'est un boulot à plein temps aussi.
C'est ça. Donc, je suis de formation ingénieure.
Oui.
Donc, j'ai fait une école polytechnique en France. Puis, j'ai fait une thèse à l'Institut Max Planck en Allemagne, toujours en physique. Et après, j'ai travaillé toujours en photovoltaïque. Donc, je travaillais pour l'équipementier à l'époque, le plus grand du monde, c'est Meyer Burger Technology Group en Suisse. Donc, j'ai toujours dans technologie. Et après, j'ai eu une petite, je dirais pas rupture, mais un petit break de carrière, parce que voilà, je suis devenue maman. Donc, j'ai passé un peu de temps avec mes enfants, mais en même temps, j'ai jamais arrêté de travailler en photovoltaïque. Vraiment, ça, en fait, cette période avec les enfants, ça m'a permis aussi de regarder un peu globalement ce qu'on a besoin d'un point de vue un peu plus global, comment on peut contribuer à cette filiale. Donc, donc j'ai beaucoup discuté avec des collègues, j'ai fait mes tests aussi en fait, pour développer des procédés. Donc en 2017, on a décidé de saisir cette opportunité à recyclage du silicium de découpe et après le silicium et des métaux issus des modules solaires en fin de vie.
Et on a besoin de beaucoup d'investissements, non, quand on se lance dans ce type de
ça dépend.
D'aventure.
Ça dépend, tout est relatif.
Ouais.
Donc, investissement, oui. Quand on regarde investissement sur CAPEX et OPEX, personnel, tout ça, donc ça, c'est assez intensif en CAPEX.
Ouais. Et vous avez fait comment?
Levée de fonds.
Ouais.
Donc, nous avons une feuille de route assez claire. Donc, tout au début, bien sûr, on a investi tous nous-mêmes. Puis, on s'est focalisé tout au début vraiment sur le développement de technologies.
D'accord.
Donc, avec beaucoup d'aide de la BPI,
oui,
de l'ADEME,
mm-hmm,
on a pu développer et démontrer dans des prototypes la qualité de matière recyclée, de
D'accord.
leur haute pureté. Donc, pour montrer ces matières aux clients qui arrivent à les réinjecter dans leur industrie, aux investisseurs qui voient qu'on a la meilleure pureté sur le marché. Et puis, on a participé à cet appel d'offres PV Cycle avec notre partenaire Envie, 2E Aquitaine. On a eu un contrat qui est une super traction pour le marché. Et après, on est beaucoup soutenu par la Commission européenne. Donc, on est lauréat sur c'est le deuxième appel pour EIC Green Deal, investissement direct par la Commission. Donc, c'est un investissement mix de subventions et equity. Donc, avec toutes ces actions-là, on a pu boucler la première levée, donc le premier tour, en 2022.
Félicitations. Youn, on te reçoit aussi aujourd'hui parce qu'on est dans le cadre d'une série d'épisodes hors série suite
D'accord.
à la publication d'une étude qui s'appelle Invest in Her, menée conjointement par France Digital, EY et la Journée de la Femme Digitale. Il s'agit de la première étude dédiée à la représentation des femmes fondatrices et dirigeantes au sein de la future génération de start-up à impact en France. Tu as t'écouté, en fait, on a l'impression et qu'on va dans le bon sens sur l'impact parce que les pouvoirs publics s'investissent aussi dans ces sujets-là. Est-ce que toi, sur ces sujets-là, tu vois que les choses avancent et bougent, même par rapport à 2017 où tu as lancé Rosie Solar?
Absolument, absolument. Ce que j'ai compris, ce que j'ai vécu les derniers 5 ans, c'est que on a un écosystème qui est de plus en plus avantageux pour des startups, pour des développements de technologies qui font impact. Et quand on livre les résultats, on a la visibilité tout de suite. On est reconnu rapidement. On est écouté aussi à tout niveau, à la Commission européenne, à la Banque d'investissement européen, à l'État français et tous ces organismes de soutien comme la BPI, ADEME. Donc, il est très facile aujourd'hui, par rapport à il y a 5 ans, 10 ans peut-être, d'avoir un contact direct avec des décideurs. Aujourd'hui, c'est vraiment mon sentiment. Donc ça nous encourage énormément
à avancer dans cette voie-là.
Exactement, cet écosystème. Dès qu'on a un besoin, ce besoin peut être écouté rapidement et pris en considération pour avoir des soutiens de tous les sens. Parce que c'est pas que des investissements. Quand une start-up veut monter un projet industriel, on a besoin d'un écosystème autour.
Oui, parce qu'il y a des choses légales, j'imagine.
Des juridiques. Même il y a un site en assurance, par exemple. C'est des problèmes, des défis quotidiens. Il y a des installations, tous les facilities, utility, la qualité, le contrôle. Donc là, il y a un écosystème. J'ai vraiment l'impression qu'on est bien écouté. C'est notre besoin.
Tout à l'heure, tu disais que Rosie était aussi engagée auprès des pouvoirs publics, mais pas que dans ces sujets-là. Est-ce que vous commencez à vous fédérer aussi en tant que différents acteurs? Alors, peut-être pas que start-up ou que start-up. Est-ce que tu peux nous en parler?
Donc, Rosie joue un rôle assez particulier en Europe pour la filière photovoltaïque. Donc, on se positionne pas comme un recycleur. On se positionne comme un fournisseur de matières premières par la voie de recyclage. Donc aujourd'hui, pour compléter toute la chaîne valeur production photovoltaïque.
Et pour revenir sur les trois lignes dont tu parlais tout à l'heure.
Exactement, exactement. Ouais. Donc Rosie est un acteur important avec des autres acteurs qui sont déjà établis. Donc c'est pas le rôle de start-up. Donc on se positionne vraiment, on veut contribuer à cette relocalisation de production PV en Europe.
Tu nous disais que tu avais fait une carrière, des études d'ingénieur, une carrière d'ingénieur. On remarque que on manque de rôle modèle dans ces carrières-là et que il faut continuer à encourager les jeunes filles à aller embrasser ces carrières scientifiques. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, à ton avis, concrètement, pour donner justement envie aux filles de suivre ces carrières scientifiques et de aussi s'investir dans ces sujets-là?
Oui, c'est une question, c'est une très bonne question. Il n'est pas facile à répondre parce qu'il n'y a pas de mesure vraiment très précise ou générale pour encourager les filles. D'abord, je voudrais dire qu'il y a quand même une différence entre les filles et les garçons. Qu'on respecte ces différences. Et après, pour les filles qui ont envie d'aller dans la direction science, scientifique, je pense à un contact avec des femmes scientifiques, ça peut énormément aider. C'est un encouragement, c'est un partage de sentiments, de l'expérience qui sont très précieux pour encourager les jeunes filles. Donc, je voudrais bien organiser ou participer à tous ces échanges avec les jeunes filles pour leur montrer les possibilités. Et après, c'est vraiment, faut les respecter, c'est à eux à choisir. Mais notre tâche, c'est vraiment de montrer cette possibilité, de montrer que les femmes peuvent être aussi très, très bien respectées, peuvent aussi avoir une carrière dans sciences, dans technologie.
Et que c'est pas fait que pour les garçons.
Non.
Est-ce que toi-même, tu as eu des rôles modèles féminins dans ces carrières-là?
Oui.
Tu peux nous dire qui et pourquoi?
Donc, j'admire beaucoup Angela Merkel.
Ouais.
Parce que, par beaucoup, beaucoup de raisons, on a certaines similarités. Donc, tous les deux, on a vécu notre enfance dans un régime communiste. On a vécu ce changement de régime, si je peux me permettre de dire. On est tous les deux scientifiques, donc on a traversé cette phase très logique. Tout doit être bien mis dans une case, tout doit être logique. Et après, on a essayé de gérer, on est tous les deux dans une position, on doit gérer des relations qui ont multi-dimensions.
Tu veux dire culturelles ?
culturel, aussi business, c'est un peu tout mélangé, politique et la stratégie. Donc pour elle, bien sûr, c'est pour un leader en Europe. Pour moi, c'est vraiment de comment guider ou proposer à Rosie, parce que c'est, on travaille ensemble, même si je suis présidente, comment on va avancer. Parce qu'il n'y a jamais une voie standard pour le développement de pays ou pour le développement d'une entreprise.
Et ta double culture et toutes ces choses qui font le puzzle que tu es, oui. Toi, tu as vu quelquefois des obstacles à ça?
C'est un peu tout le temps, mais j'aime bien ces défis.
Tu le prends avec le sourire, en tout cas.
Oui, c'est ça. J'aime bien les défis.
C'est-à-dire que si tu réagis plutôt, tu vas essayer de le transformer en opportunité plutôt que de
absolument,
te sentir attaqué sur...
Là, ça, c'est un avantage de femme. On réfléchit tout le temps.
Ça, c'est une belle punchline.
Donc, c'est un peu la même chose. On réfléchit, on essaie de mettre toutes ces pièces de puzzle dans tous les sens pour voir quelle est la solution optimale.
Ouais. Juste pour revenir sur les carrières scientifiques, dans la sphère asiatique, la différence est moins grande que chez nous, par exemple en Europe, sur les carrières scientifiques filles-garçons. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti toi aussi?
Non, pas vraiment. Non. Comme j'ai vécu en France, en Allemagne, j'habite en Suisse. Donc la France est vraiment un pays, je me sens vraiment super à l'aise, parce que les femmes sont très respectées, écoutées. Et quand on voit le pourcentage, quand on traverse le laboratoire de CNRS, par exemple, on voit quand même beaucoup, beaucoup de chercheuses donc féminines. C'est très encourageant.
Donc en fait, il faudrait plus leur tendre le micro pour montrer en fait qu'il y a déjà des femmes,
ouais.
Et qu'elles puissent donner envie.
Exactement, exactement.
À des petites filles de suivre ces carrières-là.
Je remarque quand même un tout petit peu différence, mais je généralise un tout petit peu, il ne faut pas normalement. Les femmes, on a moins la tendance d'aller devant. Même si dans un labo, moitié chercheur, moitié chercheuse, je pense que c'est plutôt les chercheurs qui parlent.
Donc, là, tendre le micro aux c'est chercheuses ça. Aussi.
Ouais.
Alors, on en a parlé rapidement. Rosie est à Grenoble. Oui. J'aime bien quand on dit Rosie, parce que j'ai l'impression que c'est une vraie personne.
Oui, féminine.
Féminine, d'ailleurs. Et je trouve que le nom est très joli. Rosie Solar, je trouve que c'est très poétique comme nom. Donc voilà, c'est, en tout cas, j'ai trouvé ça très sympa. Parenthèse. Donc, tu nous viens tout droit de Grenoble, un territoire riche en entreprises innovantes à impact. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce territoire?
Oui. Donc, quand je suis arrivée à Grenoble pour Rosie, c'était un peu par hasard parce que les deux cofondateurs, elles sont tous à Grenoble. Bien sûr, pour une raison. C'est une région vraiment très technologique. On a Soitec, on a ST Microélectronique, elles sont leaders dans leur domaine. C'est aussi une région écosystème efficace. Par exemple, on est beaucoup soutenu par, j'ai déjà mentionné Linxium, la SAT Linxium.
Ouais.
Donc, quand l'entreprise démarre, on était plus jeune qu'aujourd'hui et on ne savait pas trop marcher, comment structurer la feuille de route pour le marché, investissement, investisseur. Donc, il nous a beaucoup, beaucoup aidé avec tout est un peu sur place. Si on a besoin de conseils pour l'organisation de l'entreprise, par exemple pour le développement de technologies, pour les fournisseurs, par exemple, même les utilisateurs, c'est tout sur place à Grenoble. C'est vraiment un centre, ce que je vois, de technologie très orientée à deep tech.
Mmh.
Donc, c'est pas une région. Il y a aussi, bien sûr, des projets qui ont retour sur investissement rapide, mais ils ont vraiment une priorité sur des technologies deep tech qui a besoin un peu plus long terme pour le retour, mais sont des retours significatifs pour notre société, pour la nouvelle génération.
Donc, tu encouragerais des personnes qui voudraient se lancer dans la deep tech à déménager.
Absolument, c'est moins cher qu'à Paris aussi.
Et les montagnes ne sont pas très loin.
Très jolie, très jolie.
Est-ce que tu as des pépites que tu as vues rencontrer à Grenoble, justement dans cet univers start-up, deep tech, des entreprises où tu t'es dit waouh, c'est génial ce qu'elles font
et... Il y a beaucoup.
Ouais.
Il y a beaucoup. Si on traverse le portfolio de Linxium, on voit vraiment des entreprises, des jolies, jolies technologies.
Et t'en as une ou deux à nous.
Par exemple, notre voisin dans le même bâtiment, Imagine, c'est aussi une entreprise jeune qui fait le recyclage des déchets industriels.
D'accord. Alors, dans la vie d'un entrepreneur et d'une entrepreneur, il y a plein de premières fois. Si je te dis ton premier renoncement.
J'ai dit non à un investisseur.
Ouais. Pourquoi?
Alors, investisseur au start-up, quand on commence, c'est quelque chose que j'ai appris. Quand on commence, très souvent, les positions ne sont pas très, très justes.
Tu veux dire les valorisations?
C'est un peu en dehors d'une relation normale entre les êtres humains. Donc, les startups demandent aux investisseurs, et les investisseurs, il y a une bonne partie qui ont une attitude quand même, je dirais, pas assez valorisante pour les startups. Donc, tout au début, on a dû faire lever de fonds et tout ça, la discussion était difficile pour nous parce qu'on doit tout montrer, le respect un peu manquant.
Ouais.
Le respect mutuel. Mmh. Il y en a qui ont beaucoup de respect, il y en a qui ont moins. Donc, nous avons pris du temps pour comprendre quel investisseur on veut parler, on peut partager, on peut avancer ensemble. Tout au début, c'était difficile.
Cherches de l'argent. C'est compliqué, quelquefois, de dire non.
Absolument. Au début, je ne pouvais pas dire non, même si je ne me sentais pas à l'aise.
Ouais.
Et après certains temps, j'ai pu dire non.
Non, parce que, et c'est souvent quelque chose que les gens disent à ce micro, que c'est hyper important de partager un certain nombre de valeurs avec tes investisseurs, parce que ils vont faire partie de l'aventure avec toi.
C'est ça.
Et que tu te sens en confiance.
Exactement, c'est cette confiance. Et après, j'ai compris, on peut dire non, c'est la deuxième meilleure réponse.
Si je te dis ta première grosse erreur, big mistake.
On fait des mistakes, des erreurs tout le temps. Ouais. Ce qui est important, c'est de corriger. Le big mistake. Toutes les erreurs que j'ai faites m'ont appris quelque chose. Donc, quand je regarde en arrière, je ne peux plus dire que c'est une grande erreur.
Parce que tu en as tiré quelque chose.
C'est ça.
Tu as mis les pièces du puzzle ensemble.
C'est ça. Tout ouais. au début de Rosie, j'ai pris contact avec plusieurs entreprises, donc un grand groupe. La plupart n'a pas marché. Et à ce moment-là, j'étais assez frustrée. Pourquoi ça ne marche pas? Mais maintenant, j'ai compris. ça fait partie de notre chemin.
Oui.
D'arriver jusqu'à aujourd'hui, de vraiment travailler sur les essentiels, de vraiment comprendre ce qu'on veut et où aller.
Et, allez, un petit dernier, ton premier coup de culot avec Rosie.
C'est toujours comme ça, c'est en continu. Tu sais, Rosie, on a vraiment traversé cette voie, on peut dire, classique. On commence par les tests du laboratoire, faire la première étape. Prototype et puis industrialisation. Chaque étape, c'était inconnu. Je dois encourager mes collègues d'y aller. Donc, c'est chaque fois...
Chaque étape avec tes collègues, c'est un coup de culot en disant « on va y arriver ».
C'est ça.
Comment tu les motives, justement ?
Il faut montrer. Il faut démontrer comment on travaille et aussi avec une attitude très, très transparente. Donc, on a des difficultés, on montre comment on traite ces difficultés sans être sûr. On va vraiment trouver une solution. C'est plutôt renforcer la confiance de collègues à la place de résultats directs, rapides.
Vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui ?
À peu près 30.
Eh bien, c'est, Ça devient des belles équipes.
Oui, je suis d'accord.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ?
Alors, tu nous en as un petit peu parlé. Tu nous as dit que tu étais issue de plusieurs cultures. Comment tu étais petite fille ?
Ça fait longtemps.
Non, pas si longtemps que ça.
C'est gentil. J'ai pas beaucoup changé dans la mentalité.
Ouais.
Donc, j'ai toujours essayé de chercher la raison fondamentale de quelque chose, des essentiels. J'étais toujours très, très curieuse. Et j'insiste beaucoup, comme aujourd'hui, toujours.
T'as des souvenirs en particulier, peut-être à l'école, où justement tu t'insistais sur quelque chose ou de jeux particuliers auxquels tu jouais finalement qui résonnent en fait aujourd'hui, qui ont un sens et tu dis tiens, c'est rigolo.
Déjà, le choix pour continuer à faire toujours dans la voie physique,
ouais.
C'était un choix pas très très facile.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a peu de filles, hein, j'avais peu de copines. Donc il faut toujours vivre avec des garçons, donc c'est pas toujours facile avec différents âges.
Ouais, oui, j'imagine. Et puis ne pas se laisser influencer par ses copines qui partent ailleurs et de les suivre par facilité.
C'est ça. Et aussi de la compétition avec les garçons, c'est pas facile non plus. Mais ça nous rend plus robuste.
Qu'est-ce que tu retire justement de cette double culture par rapport à ton parcours, que ce soit pendant tes études ou ton premier job
Je vois beaucoup plus d'avantages qu'inconvénients.
Ouais.
Surtout en France, je peux me permettre. C'est un pays qui accepte beaucoup de différentes cultures très tolérantes. Et j'adore la créativité issue de ce mélange de cultures. Parce que pour une chose, on peut regarder les différents aspects. C'est très intéressant, qui peut sortir des résultats très différents. On essaie d'avoir le meilleur.
Tes parents, ils étaient aussi dans des carrières scientifiques ?
Ouais, donc tous les deux sont techniques, donc ouais. Beaucoup influencés, c'est vrai.
Donc tu avais ton rôle modèle avec ta maman ?
Plutôt mon père, ouais. Il est aussi physicien.
Qui est physicien, d'accord.
Donc il m'a beaucoup appris toutes les choses logiques. Hein. Donc ce mot logique est ouais. Très très important pour moi.
Donc tu as été baignée aussi dans cet univers-là.
Absolument.
Tu en as parlé tout à l'heure en disant que tu avais fait un petit break de carrière parce que tu étais devenue maman. Ce sont des ados aujourd'hui, pré-ado-ado.
Ouais.
Ils sont comment par rapport à cette relation justement aux sciences ?
Donc, j'ai deux garçons de 13 ans, 15 ans.
Ouais.
J'ai essayé de les laisser vraiment la liberté de se développer. Donc, il y a peu d'inconvénients, enfin, ce que je vois ma vie, quand j'étais petite, quand même, on avait pas mal de contraintes, hein, de les travailler, il faut bien, voilà, il y a un calendrier assez serré pour les études. Aujourd'hui, je vois le monde est beaucoup plus grand qu'on a pensé quand on était petit. Ce que je voudrais que mes garçons, ils le découvrent, ils ont leurs objectifs. Il met un effort pour atteindre leur objectif et découvre ce monde. Essaie de trouver la place. Donc, essaie de trouver quelque chose. Ils savent bien faire et ils aiment faire. Donc, ça, c'est un peu mon objectif pour les garçons.
Ne moins les mettre dans un calendrier très serré de non. Là, tu fais ci, tu fais ça, mais les laisser c'est expérimenter aussi.
Exactement. Et je parle... Enfin, je suis pas déçue que j'ai passé quelques années avec mes garçons quand ils étaient petits, dont la relation est très très proche et étroite, et on parle comme des amis. Donc ils me racontent toujours ce qui se passe dans leur vie. Je suis pas une maman, je dois dire très très présente aujourd'hui comme je suis présidente de Rosie. J'ai beaucoup de voyages, mais quand je suis avec eux, j'essaie d'avoir des moments vraiment qualitatifs.
Qu'est-ce que tu as envie de leur laisser, de leur transmettre, justement ?
Mes deux garçons ?
Ouais.
je voudrais qu'il il a tellement de choses, je voulais leur dire. Je voudrais que les garçons, ils ont leur confiance, c'est que ce sont devient des personnes qui sont confiantes en soi-même.
Parce que c'est la clé pour toi de réussir sa vie.
Ouais, parce que dans cette société aujourd'hui, il y a tellement de différentes opinions. Il faut savoir analyser et vraiment insister en ce qu'on croit.
Et comment ils comprennent aujourd'hui ce que ton engagement avec, avec
assez
Rosie?
Assez flou. Assez flou.
Tu les as déjà entendu dire, alors ma mère, elle fait...
oui, j'ai entendu parler de ça. Mais pour eux, je suis surtout un maman.
Ouais. Et ils ont cette conscience écologique?
Absolument, absolument. Donc, mon aîné, il est au lycée. Donc, dans la cantine, hein, s'il a la nourriture qui vient de jours avant, donc tous les enfants, ils commencent par la nourriture qui vient du jour avant.
Ouais.
Donc, vraiment, ils regardent. Je comprends vraiment... ça me touche beaucoup, cette nouvelle génération, soit mes enfants, les copains de mes enfants ou des collègues, jeunes collègues de Rosie, ils ont vraiment ces fibres écologiques. C'est beaucoup plus fort quand j'étais petite. Quand j'étais petite, c'était un peu à la consommation des matériels. Et aujourd'hui, les jeunes, ils ont vraiment cette envie aussi d'aller plus écologique. Il faut les encourager.
Et notamment chez Rosie, c'est aussi un des critères qui te permet d'avoir des talents, j'imagine, de
recruter. Absolument. C'est une équipe excellente, vraiment excellente. On a commencé, quand on a commencé, on a dû tout faire. Hein, donc, les prototypes, les tests, intégration, industrialisation. Avec cette équipe, 3-4 ans, on est déjà sur une position leader. Donc, toutes les jeunes, ou un peu moins jeunes, moi, on essaie d'avoir une philosophie qu'on travaille vraiment sur les essentiels. Qu'est-ce qui porte vraiment l'avance technologique?
Si on reparle de toi un petit peu, tu as été présidente de Rosie Solar, tu es maman comme tu nous l'as dit, t'engages et tu te bats en tout cas pour faire avancer les choses sur tous ces sujets de recyclage, de législation au niveau français, européen. À quel moment tu te ressources et tu arrives à te recentrer et reprendre de l'énergie?
Pour être très honnête, ma vie professionnelle et ma vie personnelle sont tout mélangés.
Comme beaucoup d'entrepreneurs.
C'est ça. Et j'ai appris à vraiment me reposer ou apprécier les petits moments. Quand je marche dans la rue, je vois des fleurs, j'ai du plaisir à les voir. Ce sont des petits moments qui me sourcent.
Qui te permettent de te recentrer.
C'est ça.
Tu arrives à avoir encore des temps libres de lecture, d'écoute de musique, de podcast, enfin je sais pas.
Non.
De...
non. Non. Par exemple, j'ai un livre dans le sac, ça fait un mois, il est là et j'ai pas pu finir.
Et il voyage en revanche.
Avec moi.
Tu lui fais voir du pays.
C'est ça.
Youn est morte de rire.
Je suis d'accord.
Alors, imagine que tu as pris la tête de l'Élysée. Quelle serait la première mesure que tu prendrais?
Industrialisation.
Ouais.
La raison n'est pas fortement liée à industrialisation. C'est que si je prenais la tête de l'Élysée, ce que je voudrais... Objectif, c'est que nos peuples, ils ont le droit d'avoir une richesse en matériel, une richesse spirituelle, parce que déjà quand on parle d'une richesse matérielle qui nous permet d'avoir une liberté en soi-même, et c'est là où on a la créativité vers un objectif. une richesse pétunielle. C'est là, on a un objectif dans la vie. On met un effort pour atteindre cet objectif. Et la vie, c'est une procédure. C'est ces moments qu'on fait un effort pour avoir une satisfaction qui rend notre vie avec du sens. Donc, c'est un peu là mon objectif, si je prenais la tête.
Réindustrialiser.
La voie, c'est la réindustrialisation.
Et on a vu dans ce podcast, enfin, Thomas, mon associé, et Olivier, mon associé sur, mes associés sur 40 Minutes de Next, avaient interviewé le patron d'Insect. Et il disait l'industrie, c'est plus germinal. Parce qu'il y a aussi cette image que l'industrie.
Dur.
Oui, c'est dur, c'est un peu vieillot, on n'a pas envie d'y aller, etc. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour redorer aussi l'image de l'industrie ?
Il faut avoir plus de femmes.
Parce que c'est elles qui redonnent de...
Je rigole un peu. Industrie, il faut quand même donner une image à la société correcte.
Oui.
Donc, il y a l'industrie, il y a l'emploi, déjà dans l'industrie. Et après, il y a les produits. La conception, ça fait partie de l'industrie aussi. Après, c'est pas que des machines. Hein. L'industrialisation, c'est vraiment sur tous les aspects de notre société. Donc, si on peut repartir un peu les rôles correctement. Et engagement des femmes, c'est vraiment très, très important sur redonner, rationaliser les images de l'industrie.
Donc, en fait, à nouveau, on revient sur les rôles modèles, mais aussi les sociétés impact, ouais. Et montrer que l'industrie peut faire évoluer le pays.
Absolument.
Wow. Alors, on a eu, il y a bientôt 3 ans, on était confinés il y a 3 ans, donc la pandémie, le confinement, des claques, on en a eu beaucoup. En dehors de ces périodes, quelle est toi la plus grosse claque que tu as prise professionnellement ou personnellement, et en positif ou en négatif?
Oui, en positif et en négatif, tous les deux concernent les jeunes. Donc, côté positif, donc Rosie, le développement de Rosie est bien aligné avec le confinement et Covid. Les dernières 5 ans, l'équipe de Rosie a très, très bien travaillé pendant cette période. En fait, la difficulté dans l'environnement incitait la créativité. Donc, on a réussi à se concentrer vraiment sur les essentiels, sur le développement de technologie, montrer la qualité de travail, de matières recyclées, développement international ou industriel.
Ça crée une émulation.
Absolument. Donc, c'est vraiment une claque pour moi, une très, très bonne surprise. Négative, ça concerne aussi les jeunes, mais plus petits. Je vois quand même une toute petite dégradation dans l'apprentissage de très jeunes enfants dans leur langue, par exemple, quand on doit être masqué, la capacité de s'exprimer, ça devient un peu moins avancé que les autres. Je vois clairement cette génération. Ça, c'est la partie négative. Mais on essaie de rattraper après.
Oui, parce qu'ils sont quand même...
Ils ont encore beaucoup.
Ils ont encore beaucoup, jeunes, voilà. Ils peuvent, mais c'est vrai que ça a pu créer en tout cas des écarts aussi en fonction de l'avancée des enfants.
Ça sera un point un peu vigilant pour le développement de technologie, pour aider à rattraper, je pense.
Ouais. Et puis l'engagement des professeurs des écoles aussi qui s'engagent sur ces choses-là.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Je vais te laisser le micro pour ta carte blanche pour aborder le sujet de ton choix, un coup de gueule, un coup de cœur, un coup de projecteur. À toi de jouer.
Merci Solène. Je voudrais partager quelques réflexions. Ce que je voulais dire, c'est que j'aime beaucoup ce que je fais. Je suis très fière de mon équipe. À Grenoble, à Rosie, comment ils avancent, comment ils voient les choses, comment ils traitent les défis. Et je suis aussi très fière de notre management qui laisse toute Rosie l'opportunité, qui essaie de construire une ambiance, philosophie de Rosie, qu'on est transparent, on travaille sur les essentiels. Donc ça, c'est vraiment une bonne partie de ma vie. Je vais continuer à poursuivre. Et après, je voudrais dire, c'est que je trouve la vie est belle. Elle est assez longue pour une mission qui fait du sens, mais elle est assez courte pour que on ne change pas trop la direction dans la vie. Voilà, je ne sais pas si c'est 3 minutes, mais c'est ce que je voudrais partager.
Ben merci en tout cas pour cette jolie philosophie de vie. C'est un vrai rayon de soleil, cette interview. Tu m'as dit en off, c'est la première fois que je fais cet exercice. Donc je suis ravie que tu aies pu partager cette première fois avec moi. Comme ça, quand on te dira ton premier podcast... Tu te souviendras de ce matin où je t'ai servi un café froid.
J'ai vraiment très gentille, Solène.
Mais j'ai refait un café chaud, je rassure nos auditeurs. Avant de finir, est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné et que tu n'aurais pas dû écouter?
Oui. Pour Rosie, le niveau adapté de communication, j'aurais fait un peu différemment qu'aujourd'hui. Tout au début de l'entreprise. Donc, on a appris un peu cette culture start-up de commencer par pas mal de communication tout au début. Donc, marketing, ça a pris un poids un peu trop important pour tout début d'une start-up deep tech. Mais on a compris rapidement. Donc, ça, c'était je ferais différemment.
Tu ferais différemment.
Ouais.
Super. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. Donc, je répète, tu es la cofondatrice et présidente de Rosie Solar. Et longue vie à Rosie Solar et bonne installation.
Merci beaucoup.
Tu nous enverras des photos.
Volontiers.
Merci beaucoup.
Merci Solène.